Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la lutte contre le terrorisme. Après le 11 septembre 2001, les attentats commis en Europe mais qui n'ont pas non plus épargné les États-Unis, comme en a témoigné l'action commise à Boston, ont conduit les pays, France en tête, à modifier leur législation et conduire une politique par certains aspects liberticide. La question de l'efficacité de ces politiques suscite ici et là des débats, des questionnements. Regard pour ce qui nous concerne aujourd'hui sur la stratégie de la France et les problèmes que soulève la thématique guerrière exploitée par le gouvernement. Et au-delà cette question, l'architecture sécuritaire européenne évolue-t-elle? De quelle manière? Et quels sont les défis? Nos invités, François Heisbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique, président de l'International Institute for Strategic Studies basé à Londres, et du Centre de Politique de Sécurité de Genève qui vient de publier « Comment perdre la guerre contre le terrorisme » paru dans la collection Essai des éditions Stock. Bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Conessa, spécialiste des questions stratégiques internationales, en particulier militaires, auteur du rapport « Quelle politique de contre-radicalisation en France ?» et du guide du petit djihadiste paru chez Fayard. Bonjour.
Bonjour.
François Heisbourg, vous dressez dans votre dernier ouvrage un bilan accablant de l'action des services de renseignement et de la gestion de la crise par les autorités françaises avant, pendant et après les attentats de 2015. Charlie Hebdo en janvier, le Bataclan et Stade de France le 13 novembre dernier. Quelles ont été les principales erreurs ?
D'abord, pour déterminer quelles sont les principales erreurs, il faudrait faire le nécessaire pour étudier ce qui s'est passé. Or, un des problèmes en France, à l'heure actuelle, c'est que le gouvernement a soigneusement évité de s'engager dans une démarche d'apprentissage des leçons à prendre de l'affaire Mera, de l'affaire Charlie, de l'hypercacher et bien entendu des attaques du 13 novembre dernier. Et le 13 novembre, c'était l'attentat le plus grave sur le sol français depuis la guerre d'Algérie. Ça méritait que l'on s'apesantisse un tout petit peu sur le comment du pourquoi de ces événements. Le gouvernement n'en a pas voulu. Le Parlement a imposé, à juste titre, la création d'une commission d'enquête parlementaire. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que les différents responsables ne vont pas s'exprimer de la même façon selon qu'ils sont encouragés ou découragés par le gouvernement de mettre l'ensemble des données sur la table. Donc ma réponse est indirecte, parce que je ne dis pas « Oh, il y a ceci qui n'a pas marché, il y a cela qui n'a pas marché ». Bien sûr, il y a quelques exemples qu'on peut donner, mais beaucoup plus fondamentalement, nous ne pourrons pas empêcher les dysfonctionnements que nous avons connus au cours des dernières années si on ne fait pas une commission nationale d'enquête. Il est encore temps de la faire, et ce n'est pas exclu, mieux vaut tard que jamais. Ce que je crains, c'est que le gouvernement continue à jouer la montre en espérant qu'il ne se passe rien d'ici les élections présidentielles.
De 2017. Pierre Conessa, un commentaire ?
Non, je crois que la position de François est exacte. Maintenant, il n'y a pas cette tradition en France, comment dire, du caractère d'enquête avec investigation faite par le Parlement. Un ancien patron du CEA, qui s'occupait des applications militaires, m'expliquait qu'avant de partir devant une commission de parlementaire, il passait plus de temps dans le cabinet du ministre à savoir ce qu'il ne devait pas dire qu'à passer le temps devant la commission de parlementaire pour expliquer ce qu'il avait à dire. Donc on est quand même dans une tradition très 5e République où le Parlement n'a pas les compétences qu'a par exemple le Congrès américain. Mais c'est vrai que sur des affaires comme celle-là, ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'effectivement, après ça, tout le monde se donne des avis sur le renseignement, même quand ils n'en ont jamais fait dans leur vie. Donc ça, c'est plus gênant, parce que ça fait un débat qui est complètement brouillon.
Donc finalement, pour vous résumer, c'est cette absence de débat que vous dénoncez.
Non, c'est pas l'absence de débat. Le débat, on en a plein. C'est l'absence d'une démarche d'enquête. Et la commission d'enquête parlementaire, elle existe, avec les insuffisances que vient d'évoquer Pierre Conessa. Et ce qui n'existe pas, c'est la commission nationale. Mm-hmm. Les États-Unis, pas plus que la France, n'avaient l'habitude de faire des commissions nationales d'enquête à la demande de l'exécutif et avec la participation des législatifs. C'est ce qui s'est fait après le 11 septembre, et c'est ce qu'il faut faire chez nous, précisément pour éviter le genre de phénomène qui vient d'être évoqué sur le type qui passe au cabinet du ministre, qui va lui dire « Surtout, tu parles pas de ça, surtout, tu parles pas de ça, sinon ta carrière, tu peux lui dire adieu ». On ne peut pas se permettre de fonctionner comme ça, compte tenu de la gravité des défi.
Cela dit, sur la commission d'enquête post 11 septembre aux États-Unis, il y a quand même 28 pages qui ont été retirées du rapport par le président Bush parce qu'elles accusaient directement l'Arabie Saoudite. Bon, ça, on y reviendra, si vous voulez, parce que pour la France, on a toujours cette même ambiguïté du discours sur le salafisme et pas le wahhabisme.
Et c'est un sujet de débat dans cette campagne aux élections américaines sur la déclassification de ces fameuses 28 ou 30 pages
de vote de ce rapport. Par le Congrès d'un certain nombre de mesures concernant la possibilité de class action contre l'Arabie Saoudite, oui.
Alors, on a évoqué Charlie Hebdo, on a évoqué le Bataclan en novembre 2015, plus récemment les attentats en Belgique. Quoi de neuf avec ces attentats en Belgique dans la lutte contre le terrorisme, François Hesbourg ?
J'allais dire quoi de neuf ? Ben, le fait qu'ils aient eu lieu, hélas. Et pour le reste, on était là, pour le coup, dans l'ordre du prévisible. Ce n'est pas un secret qu'il existe en Europe des djihadistes, des gens qui ont épousé l'idéologie des extrêmes dans la radicalisation islamique. Et la Belgique était un endroit relativement commode pour l'organisation d'abord de réseaux de soutien. Les opérations à Paris ont été en grande partie gérées depuis la Belgique. Et puis ensuite, bien sûr, la Belgique comme cible dès lors que le réseau de soutien était lui-même menacé. C'est une autre façon de dire que d'autres pays d'Europe peuvent effectivement connaître le même type de défi. Après tout, n'oublions pas que des attentats multi-cibles et multi-modes opératoires ont déjà eu lieu en Europe, bien avant qu'il n'ait eu lieu à Paris. L'attentat de Madrid de 2004, 191 morts.
Et Londres 13 en 2005.
Bombes, et Londres 2005. Et dans un genre non-islamique, qui se voulait justement anti-islamique, c'est l'équipé terroriste de Breivik en Norvège, qui tout seul arrive à tuer 77 personnes par une combinaison de véhicules explosifs et d'assauts aux fusils mitrailleurs et aux pistolets. Un individu seul a pu faire ça, c'est une autre façon de dire qu'il suffit de très peu de monde pour causer un dégât considérable. Le 13 novembre, à Paris, ils étaient un petit peu plus nombreux, mais les exécutants étaient une dizaine, et les réseaux de soutien tels que on commence à les connaître à partir des enquêtes à Paris, en Belgique et ailleurs, en est dans les petites dizaines. On n'est pas exactement dans un mouvement de masse. On est dans une configuration qui reste pour le moment comparable à des défis terroristes comme on en a connu dans les décennies précédentes. Je pense aux Brigades Rouges en Italie, par exemple. Et ça, c'est au cœur d'un des très grands débats qui a lieu aujourd'hui en France, notamment entre deux islamologues très distingués, Olivier Roy et Gilles Kepel.
Pierre Connaissant, dans quelle mesure ces actions font-elles bouger le curseur, finalement, en Europe ?
Je ne suis pas convaincu que ça fasse beaucoup bouger le curseur en Europe. D'abord parce qu'il y a une vieille tradition européenne, c'est que à chaque fois qu'un pays est confronté à ce genre de choses et qu'il est obligé d'adapter sa législation, en général, les autres viennent lui donner des leçons sur les caractères liberticides des lois, ce que je trouve assez insupportable personnellement, parce que vous savez, il y a une espèce de compétition, et je suis plus démocrate que toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'approche sociologique de ces attentats. On a beaucoup mis en accusation, par exemple, la Belgique pour son système communautariste. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire de Molenbeek, on s'aperçoit que Molenbeek a servi de réservoir pour l'assassinat de Massoud, du commandant Massoud en Afghanistan, commandité par Ben Laden. On les retrouve avec la zone dans laquelle a transité Nemouche avant d'attaquer le musée juif de Bruxelles. On retrouve à nouveau avec les attentats de novembre, etc. Bon. Donc ça pose une question importante, c'est la ghettoisation que les salafistes tentent d'imposer comme posture de comportement pour expliquer que si on ne fait pas ça, on est islamophobe. Ça, c'est un véritable problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'études disponibles sur ce genre de sujet, mais enfin, on sent bien que la concentration, l'espèce de pression sociale et religieuse que les salafistes imposent... Vous savez qu'en Angleterre, par exemple, il existe des sharia zones, c'est-à-dire des endroits qui ne sont pas reconnus légalement, mais dans lesquels des panneaux à l'entrée indiquent que vous entrez dans une zone gérée par la charia ou dans laquelle on vous interdit de fumer, de boire, etc., etc. Bon, ça a un côté démonstratif, mais enfin, ça interpelle. La deuxième chose, c'est quand on regarde le réseau des 30 personnes qui sont à peu près impliquées dans les attentats, on s'aperçoit que tous avaient déjà été condamnés. C'est-à-dire, je reviens sur un débat que les Français ont évité, qui est celui de la déchéance de nationalité, aujourd'hui à l'ordre du jour en Belgique et en Hollande, parce qu'encore une fois, j'ai entendu des débats surréalistes sur la question de la déchéance, sachant qu'elle existe déjà dans le Code civil et que le droit du sol a été inventé par Napoléon quand il manquait de troupes. Donc je ne sais pas si Napoléon était de droite ou de gauche, mais en tout état de cause, on est sur un débat qui a été complètement biaisé. Et puis, la dernière remarque, si vous voulez, c'est ce débat aussi que je trouve assez décalé par rapport à la réalité, sur la différence entre salafisme quiétiste et salafisme djihadiste. Parce qu'on vous explique qu'il y a du salafisme quiétiste, mais quand on regarde ce que signifie le salafisme quiétiste, il est simplement raciste, sexiste, homophobe, misogyne, antisémite. Et je veux dire, quand on a une idéologie de cette nature, c'est à peu près comme si on se demandait si Hitler était vraiment antisémite avant d'arriver au pouvoir, si vous voulez. Non, on est sur une idéologie totalitaire. Mmh. Qui, de toute façon, si elle était au pouvoir, imposerait une règle totalement inacceptable. Donc on est sur un débat qui, encore une fois, est du domaine du principe, si vous voulez, non pas de la réalité. Et ça, ça devrait être des leçons qui devraient donner lieu à un débat que François appelle de ses voeux.
François Hesbeau.
Oui, sur la géographie sociologique du terrorisme, il y a deux choses que je note s'agissant du cas belge et son raccroc avec la France. Mais d'abord, la Belgique, elle est là où elle est située. C'est-à-dire, c'est un pays carrefour. Mmh. Si Bruxelles est la capitale de l'Union européenne, ce n'est pas par hasard. La Belgique a été, au cours des décennies, et ça n'a rien à voir avec l'islamisme, elle a été la plaque tournante des trafics d'armes, par exemple vers les TA en Espagne. Manuel Valls l'a rappelé il y a quelques mois, lorsque la question des contrôles aux frontières s'est posée. La Belgique reste la plaque tournante, par exemple, de l'équipement en armes, des djihadistes en France, l'affaire de Verviers, souvent d'ailleurs liée à des groupes de trafiquants balkaniques d'extrême droite. Vous ne changez pas la géographie, et ça vaut pour le terrorisme comme pour les affaires stratégiques de manière plus générale. Deuxième chose, l'affaire des ghettos, l'autre dimension de la géographie. La Belgique, comme le Royaume-Uni, avait fait le choix, il y a déjà pas mal de dizaines d'années, de privilégier l'homogénéité ethnique de ces quartiers. Mmh. Par exemple, à Bruxelles, vous avez un quartier européen, vous avez un quartier d'expatriés fiscaux français, ça s'appelle UCL, vous avez même des quartiers belges, vous avez un quartier turc, et vous avez, avec Molenbeek, un quartier largement marocain. Pareil pour Scarbeck. Et en Angleterre, quand vous avez eu les attentats de 2005 à Londres, ils avaient été préparés dans une ville monoethnique, Cachemiri, de la région de Muzaffarabad, c'est très précis, qui s'appelle Bradford. Les deux tiers des habitants viennent de cette région du Cachemire. Alors pourquoi est-ce que cette formule a été privilégiée? Tout simplement parce que ça assurait pour les forces de l'ordre une très grande tranquillité. Quand vous avez des charia zones, vous n'avez pas de problème de crime, vous n'avez pas de problème de frottement avec d'autres ethnies. Chacun, entre guillemets, est chez soi. Ce n'est pas le choix qui a été fait par les Français. Et les responsables politiques français qui disent qu'il y a 100 Molenbeek en France, ils ont essentiellement tort. Nos ghettos sont des ghettos qui sont unis par le fait qu'il s'agit de ghettos de pauvres et de gens discriminés, mais ils ne sont généralement pas ethniquement homogènes. Alors, ça fait pas mal de criminalité, notamment la criminalité de la drogue, mais ça fait aussi, paradoxalement, un milieu qui n'est pas très propice à l'organisation tranquille des attentats. Les types de Bradford, en Angleterre, ils avaient préparé pendant des mois les attentats de Londres. Personne ne venait les embêter dans leur charia zone. Et c'est un peu pareil pour Molenbeek. Donc, il faut faire attention de ne pas forcément confondre nos problèmes avec les problèmes des voisins. Quant à la déchéance de nationalité, comme l'a rappelé le président de la République, il s'en est aperçu 4 mois après qu'il ait lancé le débat, ça n'a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. Ça a peut-être à voir à d'autres choses, mais certainement pas à la lutte contre le terrorisme. Il aurait été mieux inspiré de s'en rendre compte avant de faire son discours à Versailles le 16 novembre.
Alors, vous évoquez Londres, vous évoquez Bruxelles. D'une certaine manière, la capitale britannique a endigué la menace après les attentats de 2005. Est-ce que il y a un exemple qui pourrait être pris sur les Britanniques dans leur manière de lutter contre ces menaces? Pierre connaît ça.
Je ne sais pas, parce que vous savez, la prévision terroriste est un exercice à grand risque, hein, parce qu'on ne sait jamais où va se passer le prochain attentat. La logique même du terroriste, c'est de frapper là où on l'attend pas, c'est pas de frapper là où on a mis du soldat statique pour protéger un bâtiment public. La Belgique est intéressante, parce que finalement, ça a été un attentat, si vous voulez, qui s'est fait localement, parce que la frontière était quasiment fermée avec la France. Donc, vous savez, la seule définition du terrorisme, c'est celle que donne Aron, c'est-à-dire l'acte terroriste est un acte de violence dont l'effet médiatique et psychologique est supérieur à l'effet stratégique. C'est très simple, ça veut dire que c'est un mode d'action effectivement qui va rechercher le maximum d'effets médiatiques. Et donc, on est sur quelque chose où, encore une fois, si vous voulez, si on le fait au moment de l'euro en France, c'est très bien. Si on le fait au moment des championnats du monde dans je ne sais quelle capitale européenne, ce sera très bien aussi parce qu'on a concentration des médias. Donc, c'est totalement imprévisible. Moi, ce qui me paraît, si vous voulez, le plus grave dans le réexamen qu'a fait la France après les attentats de novembre, c'est surtout que elle ne s'est jamais interrogée sur l'impact de sa politique extérieure dans la génération du salafisme djihadiste. Jamais. C'est-à-dire que on a continué, alors que si on regarde les vidéos produites par Daesh, hein, j'entends, je ne vais pas chercher un raisonnement abscon, il y a continuellement l'affirmation que nos médias mentent sur la situation en Syrie et en Irak, c'est-à-dire que nos bombes font des morts. Et donc, ils se mettent dans la situation de la victime pour expliquer que s'il y a eu des attentats terroristes sur le territoire, c'est parce que nous leur avons déclaré la guerre et c'est parce qu'ils nous faisons des victimes. Donc, tant qu'on est dans une situation où on considère que le terrorisme est un phénomène européen sans se demander pourquoi et où il trouve ses racines, tant qu'on continue à utiliser un concept de terrorisme sans vouloir qualifier quelle est l'origine politique du problème, on est dans quelque chose qui est un espèce de cache-sexe. Donc on prendra des mesures, mais effectivement, on ne terminera pas, si vous voulez, le générateur de l'action violente, qui, à mon avis, se situe quelque part au Moyen-Orient.
François Hesbourg.
Oui, d'abord sur les Britanniques. Les Britanniques n'ont pas connu d'attentats majeurs aboutis sur leur sol depuis 11 ans. La France n'a pas connu d'attentats majeurs aboutis sur son sol de la fin de 1995 au début de 2012, c'est-à-dire 16 ans. Mmh. Donc, comme Pierre connaît ça, je dis attention aux prévisions en la matière. Cela étant dit, les Britanniques ont effectivement mis sur pied un très grand programme d'organisation des relations communautaires et notamment en matière de renseignement de proximité, un programme qui s'appelle le programme Prevent, prenant acte du fait de leur organisation par ghetto communautaire, ils vont pas pouvoir changer leur géographie comme ça, ils ont assez profondément modifié le dispositif. Rendez-vous dans 10 ans pour répondre de façon peut-être plus concluante à votre question. Sur les liens avec la politique étrangère, c'est très délicat. Lorsqu'on a fait les livres blancs sur le terrorisme auquel j'avais participé en 2006, on était à l'époque en pleine occupation de l'Irak. Et la France n'en faisait pas partie. La France avait refusé de participer, à juste titre, à la guerre d'Irak. Et est-ce que ça nous donnait une immunité? Ben non. Oussama Ben Laden, dans ses différentes fatwas, mettait la France exactement dans le même sac que les États-Unis, le Royaume-Uni et 2 ou 3 autres pays. Et notamment à cause de l'affaire du voile. Nos choix sociétaux étaient mis en avant et par ailleurs... Et les services français démontaient chaque année, année après année, 2 à 3 attentats sur le point d'aboutir sur le territoire français. Autrement dit, ne pas intervenir dans les affaires du Moyen-Orient ne nous avait pas valu d'immunité. Est-ce qu'on peut en déduire que le fait que nous soyons aujourd'hui présents au Moyen-Orient militairement nous procure davantage de vulnérabilité? Je ne sais pas. Je suis moi-même très, très réservé sur ce que nous avons fait en matière de bombardement en Irak et également en Syrie, mais pas pour des raisons de principe. Je suis pas convaincu par le lien qu'évoquait Pierre Conesa. Tout simplement, je considère dans la mesure où les terroristes sont, entre guillemets, des petits gars de chez nous, franco-belges, belgo-français, que sais-je, et que leur organisation est très largement implantée en Europe, qu'il faut veiller à ce que l'effort principal soit porté sur notre continent davantage qu'en moyens très coûteux déployés au Moyen-Orient. Ça me fait fondamentalement assez plaisir quand on bombarde Raqqa et que l'on tue quelques malfaisants. Je ne suis pas sûr que ce soit efficace. Donc mon point de vue est peut-être un peu différent de celui de Pierre Conesa, même si nous aboutissons sur la même ligne de résultat, c'est que peut-être qu'on en fait trop au Moyen-Orient.
Alors en tout cas, on développera dans la deuxième partie de l'émission ce que vous évoquiez à l'instant, cette nécessité de faire un effort sur le continent, l'absence de liens ou les liens, Pierre connaît ça très rapidement, entre politique étrangère et les actions menées. Vous voulez rajouter quelque chose ou on termine cette première partie d'émission?
Moi juste deux chiffres si vous voulez. On s'est engagé dans la lutte contre Daesh, il y avait 10 pays de l'OTAN plus l'Australie et il y avait 5 pays arabes qui participaient aux opérations de bombardement. Bon. Pour vous donner une idée de l'importance de l'effort militaire de l'Arabie Saoudite, ils avaient mis à peu près autant d'avions que la Hollande et le Danemark réunis. Ça vous prouve combien ils s'étaient engagés contre Daesh. Dès qu'ils ont engagé l'attaque au Yémen, tous les pays arabes ont retiré leurs forces de l'action aérienne contre Daesh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous faisons seuls la guerre contre Daesh. C'est un paysage géopolitique complètement différent. Et donc, il ne faut pas s'étonner que Daesh, ensuite, décide de faire des attentats sur le territoire. Il en fait également dans l'Arabie Saoudite, mais ça, ce n'est pas notre problème.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités François Hesbourg et Pierre Conesa dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur la lutte contre le terrorisme en Europe. Nous retrouvons nos invités. François Heisbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, président de l'International Institute for Strategic Studies basé à Londres et du Centre de politique de sécurité de Genève qui vient de publier « Comment perdre la guerre contre le terrorisme » paru dans la collection Essais des éditions Stock. Et Pierre Conessa, spécialiste des questions stratégiques internationales, en particulier militaires, auteur du rapport « Quelle politique de contre-radicalisation en France » et du guide du petit djihadiste paru aux éditions Fayard. François Heisbourg et Pierre Conessa, l'état d'urgence qui a été reconduit en France jusqu'à la fin du mois de juillet, avec l'euro qui va se tenir sur notre territoire bientôt, une mesure de précaution. Et l'autre sujet à débat, c'est moi qui ont suivi les attentats de 2015 et celui à Bruxelles le 22 mars dernier, sur la question de déchéance de nationalité qui a finalement été avortée. Un commentaire sur ces deux questions. Pierre Conessa.
La question a été mal posée dès le début, c'est-à-dire que le président voulait faire une réforme constitutionnelle dans laquelle il a mis tout à la fois à inscrire l'état d'urgence dans la Constitution et la déchéance de nationalité dans la Constitution. La déchéance existe dans le Code civil pour des cas de trafic de drogue. Donc, il suffisait d'adapter ce texte de loi en rajoutant simplement pour fait de terrorisme. Parce que n'oubliez pas quand même que, en dépit de tout l'espèce d'embrouillamini intellectuel qui s'est généré autour de ça, on est bien en train de parler de gens qui ont commis des crimes terroristes, jugés, et qui, à la fin de leur peine, sont effectivement déchus de leur nationalité. Et donc, le débat s'est engagé sur des thématiques qui étaient absolument surréalistes, c'est-à-dire, effectivement, le droit du sol est républicain, ce qu'il n'est pas, c'est un droit impérial. Personne n'avait rencontré de salafistes parmi tous les auditeurs que j'ai rencontrés dans des débats. Enfin, j'ai eu un peu l'occasion de les rencontrer pour des conférences que je fais. Et si vous voulez, ces gens-là se rendent parfaitement compte qu'est-ce que c'est que l'avantage d'avoir la nationalité française. Mmh. Et donc, les gens s'interrogeaient sur les principes au lieu de s'interroger sur l'objet. Mais ça, c'est une caractéristique des débats politiques en France.
François Heisbourg.
Oui, comme on dit en anglais, if it ain't broke, don't fix it. Si quelque chose n'est pas cassé, ce n'est pas la peine d'y toucher. La déchéance existait, et pas simplement vis-à-vis des trafiquants de drogue.
Ah, si, c'est limité au trafic.
Il y a 13 personnes qui ont été déchues pendant les années 90 et 2000, dont un certain nombre de terroristes. L'histoire de la déchéance, on remonte par exemple à la Troisième République, avec la déchéance de nationalité de Maurice Thorez lorsqu'il est parti à Moscou en octobre 39, et ainsi de suite. Ou les 150 et quelques franco-allemands qui ont été déchus parce qu'ils servaient dans les rangs du Kaiser pendant la Première Guerre mondiale.
On ne va pas condamner la justice française pour des erreurs judiciaires. Sinon, on aboutirait à supprimer tout.
Pardon, Pierre, tu ne peux pas tenir des exemples comme ça. Je ne suis pas en train de dire que ce que tu as dit était idiot. Je suis en train de dire que la déchéance de nationalité est quelque chose qui existe dans la pratique judiciaire française depuis longtemps et pour une gamme extrêmement large de comportements. Et effectivement, elle a été utilisée dans un certain nombre de cas, y compris contre des terroristes. Et le président de la République, en lançant le sujet dans le domaine constitutionnel le 16 novembre dernier, a donné un signal épouvantable qui n'aura pas été effacé par 4 mois de débats surréalistes. Ben, il y a les déchéables, il y a les pas déchéables. Moi, j'appartiens à la population des déchéables. Je suis double national. Je fais partie des 3,5 millions de Français qui sont moins Français que les autres. C'est ça le signal politique qui a été donné.
T'es pas terroriste, sur François, les... que je sache, non ? C'est-à-dire que la caractéristique première, c'est fait de terrorisme. C'est
tous
pas
les terroristes. Tous les terroristes. Ouais. Pas simplement les franco-luxembourgeois ou les franco-algériens, les franco-français. Ben oui, mais à ce moment-là, on se retrouve dans une contradiction qui a été celle qui a conduit à l'enlisement et au capotage de la réforme constitutionnelle. Le président de la République a fini par clore ce débat. Je pense qu'il n'avait pas tout à fait tort. Faire de la discrimination négative, c'est quand même quelque chose de très fort. Je comprends qu'en France, on n'aime pas faire de la discrimination affirmative, où on donne un surplus d'aide à ceux qui sont d'origine étrangère et qu'il faut hisser dans la société. Je comprends que ça heurte nos principes. Mais faire de la discrimination négative, c'est-à-dire lancer un signal en disant, parce que à peu près les 2/3 des déchéables sont franco-maghrébins. Le signal qui était lancé, c'est qu'il y a toute une frange de la population qui n'a pas les mêmes caractéristiques au plan judiciaire que les autres. Sur l'état d'urgence. L'état d'urgence, lorsqu'il a été proclamé le 13 novembre, et à juste titre, avait une énorme vertu, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le coup de pied dans la fourmilière. Mmh. Et il fallait le faire. Mais les coups de pied dans la fourmilière, ça perd de son efficacité. Les phénomènes d'habitude sacrée. C'est un peu comme les contrôles aux frontières, quand Manuel Valls rappelait que les contrôles aux frontières n'empêchaient pas les armes belges d'arriver à travers les deux frontières françaises, d'arriver chez l'ETA en Espagne. Il parlait d'or. Ça ne veut pas dire qu'il fallait pas faire les contrôles aux frontières vis-à-vis de la Belgique au lendemain du 13 novembre, sans que celle-ci ait d'ailleurs empêché Salah Abdeslam de se retrouver à Bruxelles, après avoir quitté le territoire français. Mais ce sont là des couteaux dont la lame s'émousse rapidement. Et bien entendu, les coups de bélier, la nuit à 3h du matin, c'est pas pour le 16e arrondissement. Et là encore, on retrouve ce problème de, ben, quand vous habitez dans le mauvais quartier, vous subissez de façon très différente la façon dont la République s'y entend pour lutter contre le terrorisme. Après l'Euro 2016, on va arriver fin juillet, il va falloir préparer les primaires aux élections présidentielles à droite. Qu'est-ce qui va prendre la responsabilité de lever l'état d'urgence? Et on va entrer dans la campagne des présidentielles. Qui va prendre la responsabilité de lever l'état d'urgence?
Donc on en a encore pour un moment, c'est ce
on risque, vous dites, je crains, j'espère que non. J'espère qu'après l'Euro 2016, on va arrêter les frais. Sinon, on va entrer de façon permanente dans une posture stratégique qui n'est pas bonne. L'état d'urgence, c'est comme une retraite face à l'ennemi en rase campagne. Il faut de temps en temps faire retraite pour pouvoir contre-attaquer. Mais la retraite n'est pas en soi une vertu. Et confier le pouvoir aux policiers, aux procureurs et aux préfets, ce n'est pas faire avancer l'état de droit. Pérenniser cette situation, ce n'est franchement pas une victoire dans la lutte contre le terrorisme.
Est-ce que je peux revenir une minute sur le sujet? Moi, je vois une contradiction dans la position de François, parce que si la déchéance existe et que tout à coup on découvre qu'elle s'applique aux binationaux, la solution logique, c'est de supprimer toute déchéance. C'est pas de tout à coup de la découvrir, parce que pour fait de terrorisme, encore une fois, tous les binationaux sont pas des terroristes, n'oublions pas cette caractéristique. Mmh. Et c'était bien après condamnation par le juge pour fait de terrorisme. Donc, il y a contradiction entre le fait de constater qu'elle existe et en même temps le fait de constater qu'on pouvait pas l'étendre. Donc ça, je laisse ça de côté. La deuxième remarque que je ferai, pour avoir beaucoup rencontré les associations musulmanes pour faire le rapport sur la contre-radicalisation, je n'ai pas été frappé du fait que quand le projet a été proposé par le gouvernement, les premiers sondages ont donné 94% d'avis positifs sur la déchéance. C'est-à-dire que pour la majorité des Français de culture musulmane, la déchéance était une manière de différencier les terroristes du reste de la communauté. Et pour eux, c'était une décision logique. Tandis que là, on a mélangé, si vous voulez, des choses qui n'avaient rien à voir. Et encore une fois, c'est dans cette communauté-là que les gens sont le plus disposés à lutter contre la radicalisation, parce qu'ils sont les premières cibles des salafistes. C'est les imams de mosquées républicaines, c'est les présidents d'associations de mosquées, etc. Et donc, ils ont vu dans ces mesures dures du gouvernement, vraiment la nécessité de différencier ces gens qui sont dans un processus d'intégration de ceux qui ne le sont pas. Et sur la posture de l'état d'urgence, moi je suis assez d'accord avec François, on peut pas indéfiniment la prolonger sans se demander quelle va être l'issue de sortie. L'erreur stratégique majeure, encore une fois, c'est de faire la guerre au terrorisme, c'est-à-dire on fait la guerre à un concept de violence au lieu de faire la guerre à un problème politique. Donc on revient sur la question de départ.
Alors, pour poursuivre avec ce rapport sur quelle politique de contre-radicalisation en France, Pierre Conessa, la question des combattants étrangers, vous parlez de la nécessité de désethniciser le débat en faisant adopter une loi interdisant à tout citoyen d'aller combattre dans les régions couvertes par des résolutions de l'ONU, y compris les territoires palestiniens. Mais
bien sûr, hein. C'est une proposition dont j'ai débattu avec un certain nombre d'intellectuels, si vous voulez, qui se disaient, justement à propos de l'affaire Gilad Shalit, si vous voulez, en disant, ce jeune Français a décidé de faire la guerre dans le Sahel, il se retrouve prisonnier du Hamas, puisqu'il est dans un territoire occupé qui, encore une fois, fait l'objet de résolutions de l'ONU, etc. Or, simultanément, il y a un jeune franco-palestinien qui s'appelait Saïd Amouri, qui lui avait été arrêté par la justice israélienne et qui attendait d'être jugé. Ça faisait 3 ans qu'il était en prison. Or, la campagne de mobilisation s'est faite pour libérer Gilad Shalit, mais pas pour libérer Saïd Amouri. Bon. Donc, encore une fois, toute cette frange de la communauté française de culture musulmane est très sensible au fait que on va valider quelque chose qui est la possibilité d'aller faire son service militaire dans un endroit où, théoriquement, un citoyen français ne devrait pas se retrouver. Et puis, par contre, on va considérer que l'attitude d'un franco-palestinien est par nature suspicieuse. Les ambiguïtés de notre diplomatie en Syrie nous amènent exactement à la même constatation. Rappelez-vous qu'au départ, un jeune Français qui aurait été se battre contre Assad n'aurait pas été condamnable. Puis tout à coup, on a changé d'objectif. C'est plus contre Assad, c'est contre Daesh. Donc, un jeune Français qui partirait contre Daesh serait à nouveau condamnable. Donc, ça fait partie de ces ambiguïtés qui, à mon avis, clarifierait la situation de la France, c'est-à-dire qu'un citoyen français pour lequel il serait légalement interdit de se battre dans une zone couverte par une résolution de l'ONU, c'est contribuer au droit international.
François Hesbeau.
Deux observations. La première, c'est que les services en France estiment que de l'ordre de 25% des personnes fichées S pour des raisons ayant trait au terrorisme seraient des convertis. Et donc la désethnisation, si on peut utiliser ce mot un peu lourd, me paraît a priori bienvenue. Quant à la traduction dans une forme durcie de l'interdiction du mercenariat, puisqu'en principe il est interdit d'être mercenaire, il y a des résolutions des Nations Unies qui sont très anciennes sur le sujet. Mais de généraliser et d'étendre ça, c'est quand même un tout petit peu compliqué, y compris dans notre propre travail mémoriel. De l'ordre de 10 000 Français, par exemple, ont servi dans les brigades internationales en Espagne pendant la guerre d'Espagne, alors qu'il y avait une politique de non-intervention de la Société des Nations, et l'équivalent de l'ONU à l'époque, et en Espagne. Aujourd'hui, nous honorons ces brigadistes, et je pense à juste titre, car ils luttaient contre le fascisme, et y compris l'intervention armée de l'Italie et de l'Allemagne dans la guerre d'Espagne. Donc c'est quand même pas tout à fait aussi simple. Je crains que le remède que propose Pierre Conesa ne pose plus de problèmes qu'il n'en résolve. Les modalités pratiques, je crains qu'elles ne soient à peu près inapplicables.
Alors, les outils européens pour lutter contre le terrorisme, on évoque la création d'un centre européen du renseignement. Est-ce qu'on en est encore très loin? Est-ce que vous voyez l'un et l'autre l'Europe converger dans un mouvement un peu plus unitaire face dans l'attitude à avoir contre ce problème? Ça vous fait sourire, François Hesbeau?
Oui, ça fait sourire. Chaque fois qu'il y a un attentat majeur, vous avez quelqu'un qui va dire « il faut créer un FBI européen ». Ça fait 15 ans que ça dure. Eh ben, il faut créer un FBI européen, donc il faut créer les États-Unis d'Europe, et donc il faut transformer l'Union européenne en un État fédéral, ce dont se réjouiront sans aucun doute les 28 États membres, dont le Royaume-Uni. Réagir de cette façon-là, c'est immature, et c'est très franchement une façon supplémentaire de discréditer l'idée européenne. Est-ce qu'on peut améliorer l'échange de données? Est-ce qu'on peut nourrir de façon beaucoup plus substantielle ce qu'on appelle les systèmes d'information Schengen, où il y a en principe un partage de l'information policière, probablement, mais l'Europe du renseignement existera quand l'Europe aura la même forme politique que le Brésil, l'Inde ou les États-Unis. C'est pas demain la veille. En attendant, il va falloir faire du partage et tenter d'améliorer l'échange de renseignements à 28, mais encore une fois, sans illusion particulière.
Pierre Conesa.
Vous savez, quand vous pensez que le débat, c'est simplement sur le PNR, vous savez, ça peut être échange de renseignements sur les gens voyageant en avion et bloqués au Parlement européen par la délégation danoise, on se dit qu'on est quand même effectivement des petits joueurs de ce côté-là. D'autre part, sur l'espace Schengen, on a bien vu qu'effectivement, avec les attentats récents, que c'était une passoire. C'est une passoire parce que certains pays sont dans une grande difficulté, parce que certains pays délivrent des visas avec un grand laxisme, en grande partie parce qu'ils sont dans une crise économique et que finalement, on touche à des questions de corruption sur les forces de sécurité. Donc on est sur quelque chose qu'on devrait déjà mettre en place pour que ça marche bien. Et puis ensuite, on verra pour monter plus haut. La question du renseignement en particulier, vous savez, le renseignement se fait sur la base de ce qu'on appelle les totems, c'est-à-dire je vous donne autant que vous me donnez. Bon, alors mettre au pot commun en disant, attendez, nous avons tout ça et puis qu'est-ce que vous avez vous, ce n'est pas du tout la logique des services de renseignement, parce qu'il y a toujours un problème de protection des sources et de protection des données. Donc on ne va pas faire une espèce de liberté d'accès à tout ce qu'on a en matière de renseignement.
Donc pas d'évolution de l'architecture sécuritaire européenne?
Je crains, hélas non, et à l'affaire du PNR qu'a évoqué à juste titre Pierre Conesa, et j'ajouterais la question des papiers d'identité. Quand vous voyagez à l'étranger avec un passeport, dorénavant, ce passeport, il est biométrique. Il y a des normes communes qui ont été adoptées sous la pression des États-Unis après le 11 septembre. Les Européens ont été incapables de prendre, eux, l'initiative d'avoir des normes biométriques communes pour leur papier d'identité. J'aime autant vous dire qu'en particulier, la carte d'identité française, ça se fabrique quand même avec peu de difficultés, il n'y a pas d'hologramme, il n'y a pas de filigrane, il n'y a pas de biométrie. On en est au degré zéro de l'interception des malfaisants qui traversent les frontières extérieures et intérieures de Schengen.
Pierre Conesseau, je reprends une idée que vous évoquez. Vous pointez du doigt le fait que la France doit assumer son statut de pays musulman, revendiquer en toute légitimité un siège à l'OCI, l'Organisation de coopération islamique. Qu'est-ce que cela changerait ?
Elle est la continuité du rapport que j'avais fait, dans lequel je constatais la difficulté des autorités politiques françaises à prendre en compte, si vous voulez, l'apparition d'une communauté de culture musulmane en France. Je citais des tas d'exemples, Mohamed Harkoun proposant cette faculté de théologie, etc. À chaque fois, si vous voulez, c'était comment c'est pas possible, la France, pays laïque, loi de 1905, etc. Bon. Pourquoi j'en arrive à cette conclusion ? Pour une raison assez simple. C'est qu'aujourd'hui, on s'entend donner des réponses, y compris par des associations de défense des droits de l'homme saoudiennes. Dans le terme de surréalisme, si vous voulez, celle-là est quand même la meilleure. Donc, aujourd'hui, siéger à l'OCI, c'est quand même renvoyer à ces pays qui nous donnent des leçons et qui nous accusent d'islamophobie, qu'est-ce que c'est que d'être musulman en France ? Et je préférais que ce soit un ambassadeur français qui explique qu'il vaut mieux être chiite en France qu'en Arabie Saoudite et qu'il vaut mieux être sunnite en France qu'en Iran. S'ils considèrent que là, le blasphème mérite la peine de mort, ou s'ils estiment que l'apostat mérite la peine de mort, on va aller leur expliquer que si ça les gêne pas, on viendra assassiner nos convertis chez eux. Et je veux dire, tant qu'on n'est pas dans ce réalisme diplomatique, on continue dans cette situation de victimisation des musulmans, qui est absolument extraordinaire, parce que les musulmans ont plus de droits ici que dans un certain nombre de pays musulmans. Aujourd'hui, la région est divisée par une guerre sunnite-chiite, Daesh tue 90% de musulmans et très peu de non-musulmans, et on est dans la situation où on pense que nous sommes la cible. Non, nous n'avons pas à nous mêler d'une guerre de religion interne à l'islam aujourd'hui. Et donc, ça nous permettrait aujourd'hui de ne pas avoir ces gens qui se convertissent parce qu'ils ont l'impression que nous menons une diplomatie inique. Quand on voit sur un site salafiste 1000 morts à Gaza, on ne fait rien, 3 occidentaux égorgés, on envoie l'armée, c'est un constat contre lequel on ne peut rien dire. Et donc, refaisons cette espèce de retournement. Et encore une fois, l'avantage de se présenter à l'OCI, c'est que tout à coup, on pourrait compter ses amis. Nous avons plus de musulmans qu'un tiers des pays qui sont autour de la table. Ça veut dire que nous sommes un véritable pays à communauté musulmane dont nous devons défendre les intérêts. Eh ben, ce serait très agréable de savoir qui voterait pour notre participation à l'OCI.
François Hesbault.
L'affaire de l'OCI, je la trouve très intrigante. Après tout, un pays comme l'Égypte fait partie de l'organisation de la francophonie. Donc, pourquoi ne pas demander l'entrée dans l'OCI ? Je pense que ça foutrait un peu le bazar. Mais c'est vrai que ça nous donnerait des titres non seulement à faire valoir notre modèle, mais aussi à rappeler quelques vérités d'évidence. C'est qu'on peut construire des mosquées en France, mais on ne peut pas construire d'églises en Arabie Saoudite. Et quand il y a 1000 morts à Gaza, il y en a 10 000 au Yémen et il y en a 100 000 en Syrie. Donc, je suis assez tenté par cette idée. Cela étant dit, notre problème fondamental en France reste la très grande insuffisance de la lutte contre les discriminations, et pas simplement vis-à-vis des jeunes issus de l'immigration maghrébine. Discrimination au logement, discrimination à l'embauche. Bon, il est facile de faire le diagnostic, il est beaucoup plus difficile de mettre en œuvre une politique qui marche, mais je trouve qu'on devrait passer peut-être plus de temps à réfléchir et à débattre de la façon de s'y prendre dans ces domaines intensément pratiques qui concernent la vie quotidienne de tous nos compatriotes, et pas seulement de s'apesantir sur les relations entre la laïcité française et l'islam en général, et l'islam en particulier. Je pense qu'il faut hiérarchiser les priorités.
En conclusion, mais alors très rapide, Pierre Conesseau.
Moi, juste une remarque. J'ai été frappé par le processus d'intégration qui est en cours de manière silencieuse dans la société française. Aujourd'hui, tout le monde a autour de soi un banquier musulman, un écrivain de culture musulmane, un intellectuel, un académique, tout ce que vous voulez. Bon, ce processus est silencieux. Et or, aujourd'hui, on interpelle ces gens en leur disant « Prononcez-vous sur la question du terrorisme ». Et ils disent « Mais nous n'avons pas à nous prononcer. On ne va pas sortir notre carte de musulman tout à coup en nous disant « Attendez, là, je vous parle en tant que musulman ». Et cette ambiguïté-là est quelque chose que la société française a du mal à comprendre. Bien au contraire, ils se disent « Nous sommes français ». Français musulmans. Et aujourd'hui, on a une catégorie qu'on a du mal à définir, c'est les musulmans laïcs. On est obligé d'utiliser une antinomie, si vous voulez, dans les termes. Et ça, c'est la véritable transformation. Cela dit, je suis d'accord avec le diagnostic de François. La lutte contre les discriminations devrait être une priorité.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. François Hesbault, conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique, président de l'International Institute for Strategic Studies, basé à Londres, et du Centre de Politique de Sécurité de Genève, qui vient donc de publier « Comment perdre la guerre contre le terrorisme » dans la collection Essai des éditions Stock. Et Pierre Conesseau, spécialiste des questions stratégiques, internationales, en particulier militaires, auteur du rapport « Quelle politique de contre-radicalisation en France » et du guide du petit djihadiste, paru chez Fayard, et à paraître en septembre prochain, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée aux matières premières et aux enjeux géopolitiques qui leur sont attachés. À demain.